IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, encore et toujours la plus belle des radios valdoisiennes en Île-de-France, à écouter en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+, et sur notre appli Android. Jacqueline Boraz avec Francky à la technique. Bienvenue dans l'économie en direct sur IDFM Radio. Retour aujourd'hui, 26 juin 2026, sur la 5e édition des Immanquables d'Argenteuil, qui s'est tenue le 18 juin 2026 dans la ville d'Argenteuil. Un rendez-vous en présence de Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'industrie, invité donc par la ville d'Argenteuil pour échanger avec les entrepreneurs et découvrir les dynamiques économiques du territoire. En duo avec Frédéric Coste, président de la Ligue des Jeunes Talents, et grâce notamment à Linda Ketcheroud, dans un contexte où la réindustrialisation est au cœur des enjeux nationaux, nous avons tendu, grâce à Olivier Morel qui a assuré la technique, nous avons tendu le micro d'IDFM Radio à des dirigeants d'entreprises, des industriels, des représentants des collectivités et des décideurs publics autour d'un même objectif, échanger sur les défis, les réussites et les perspectives de l'industrie française. Je vous propose de revivre quelques-uns des moments forts de cette rencontre.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct de la 5e édition des Immanquables qui se déroule à Argenteuil en mode garden party. Autour de la table, on a la chance d'avoir un plateau de chefs d'entreprise qui vont venir au micro d'IDFM Radio pour pouvoir témoigner, inspirer de leur réussite, mais comme de leurs échecs, parce que la vie d'un chef d'entreprise, ce ne sont pas que des réussites. Et nous allons commencer donc cette émission avec Virginie Sachs, qui est donc cofondatrice de Compagnum, un cabinet de conseil en stratégie industrielle et gouvernance. Et vous avez déjà à votre actif accompagné une cinquantaine de chefs d'entreprise, non, 500 dirigeants et une cinquantaine de territoires. Et avant de vous poser une question, on a un petit peu préparé l'interview. On va célébrer les 100 ans de la mort de Claude Monet, qui a vécu une dizaine d'années à Argenteuil. Et il me semble qu'il y a une petite passion pour ce peintre.
Oui, exactement. Bonjour à tous. Alors, il se trouve que Claude Monet était mon peintre préféré quand j'étais petite, Régate à Argenteuil en particulier, quand même mon tableau préféré. Et il me semble intéressant de rappeler que Claude Monet, c'est aussi le peintre qui, outre l'impressionnisme et la beauté de ses tableaux, a remis le commun des mortels, les Français, dans la peinture. Avant, on peignait des dieux, des rois. Les impressionnistes ont ramené, entre autres, ont ramené les Français, les citoyens, au cœur de la peinture. Et dans les citoyens, il y a aussi les industriels. Il y a les Français qui vivent, qui vont à la gare Saint-Lazare. Donc Monet a fait un nombre important de tableaux sur la gare Saint-Lazare que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment l'emblème de la société française. Des industriels en particulier qui vont commencer à profiter de la vie, à aller en Normandie pour prendre leur premier congé payé. Et donc c'est Claude Monet qui a aussi mis la lumière sur la société française telle qu'elle est. Et ça me touche beaucoup parce que finalement l'industrie, pourquoi je l'aime, c'est parce qu'elle est emblématique de cette diversité et de cette fenêtre sur la société qui change. Quand on parle de réindustrialisation, c'est aussi la renaissance d'une nouvelle société. Et pour moi, Claude Monet, c'est ça.
Vous nous avez parlé de Saint-Lazare, on est à 7 minutes de Saint-Lazare avec la gare d'Argenteuil. Mais vous, votre rencontre avec l'industrie s'est faite plutôt du côté de l'Auvergne. Racontez-nous un petit peu.
Exactement. Alors, avant de diriger Compagnum, qui est donc un cabinet de conseil sur l'industrie, donc en fait, on facilite les projets d'investissement industriel dans tous les territoires et puis on les débloque. Quand il y a des blocages, on a aussi un outil cartographie de l'industrie, on débloque des projets d'investissement et puis on publie des livres sur l'industrie. Avant de diriger Compagnum, eh bien, je travaillais pour un autre cabinet de conseil que j'avais décidé de quitter pour aller dans le milieu industriel sans trop vraiment savoir pourquoi. Et je rencontre mon employeur, futur employeur, qui s'appelle Constellium, qui fait de l'aluminium pour le secteur aéronautique. Il se trouve que quand je rencontre Constellium, je me rends à Issoire, donc dans une usine au sud de Clermont-Ferrand. Et je rencontre le laminoir d'Issoire, qui est un laminoir donc, qui fait des tôles de plus de 10 mètres de long, de plus de 2 mètres de large, qui nous avait été offert par les Américains lors de la guerre. Donc sur le laminoir, il est marqué US Marshall 1947. Et je me prends d'amour pour ce laminoir, en me disant que finalement c'est ça, l'industrie c'est aussi un bout d'histoire, qui doit être compétitive, qu'on doit défendre. Et c'est le début de mon histoire industrielle. Et en fait, depuis ce jour-là, j'ai pas cette tendresse que j'ai pour l'industrie et cette passion, parce qu'on peut vraiment parler de ça. Eh bien, elle n'a pas faibli. C'est autant une passion pour la technique industrielle. Je ne suis moi-même pas ingénieur, mais aussi pour ce qu'elle représente dans les territoires. Je dois aussi vous dire peut-être, puisque c'est aussi un lien avec, de moi avec Argenteuil, outre Compagnium, je dirige la chaire Deep Tech et Industrie du Futur de l'ESSEC que j'ai co-créée l'année dernière et dont Argenteuil, et plus largement Boucle Nord de Seine, le territoire d'industrie sur lequel nous sommes, est partenaire parce que je veux montrer que dans des écoles de commerce, qu'on soit ingénieur ou pas, il y a de très belles carrières et de très belles rencontres à faire avec l'industrie.
Alors justement, l'industrie, c'est un sport d'être chef d'entreprise, notamment une femme dans l'industrie. Moi, je serais intrigué de connaître un petit peu votre routine matinale pour tenir le rythme.
Alors, tenir le rythme, parce que effectivement, il est dense et on se lève tôt le matin. Dans l'industrie, on se lève toujours tôt. Ma routine matinale, eh bien, c'est d'être avec mes enfants, parce que je suis passionnée d'industrie, mais je suis... Et surtout passionnée, maman passionnée. Le matin, je me lève tôt parce que mon tout petit se réveille à 5h45. Et l'une de mes routines qui importe beaucoup pour moi, c'est pour le grand qui a 6 ans, c'est de lui raconter ce que je vais faire de ma journée. Pour que l'industrie l'interpelle déjà, qu'il ait cette curiosité. Et aujourd'hui, il l'a, hein, quand je vais dans des usines, quand il y a des ouvertures de sites, des visites d'usines et que je l'amène avec moi, il est ravi. La semaine dernière, sa maîtresse était absente. Je lui ai demandé ce qu'il voulait faire. Il m'a dit, je veux venir au Made in France, parce que je l'ai amené au salon du Made in France l'année dernière. Et pour moi, c'est important qu'il ait cette curiosité, ce panorama, et qu'il puisse s'y passionner peut-être demain ou peut-être pas.
Alors, c'est intéressant parce que vous êtes une maman inspirante pour vos enfants. Mais j'imagine que vous, il y a quelqu'un dans votre répertoire de plus ou moins influent qui vous inspire. Et ma question, c'est quelle est la personne la plus importante de votre répertoire ?
Alors, entre important et inspirant, ça peut être un peu différent. L'importance, je peux dire que j'ai le numéro de téléphone de Sébastien Martin et que c'est quelqu'un d'important puisqu'on va le voir, on va le voir tout à l'heure. Mais pour moi, dans mon répertoire, j'ai un ensemble de personnes qui représentent l'écosystème industriel et qui a à cœur de faire réussir des projets. Est-ce que c'est un investisseur ? Est-ce que c'est un avocat ? Est-ce que c'est un confrère consultant ? Est-ce que c'est une fédération ? Un autre industriel ? En fait, des personnes importantes dans mon répertoire, j'en ai beaucoup. Ce qui compte surtout, c'est qu'elles sont importantes pour le porteur de projet que j'accompagne, parce que dans ce répertoire, je fais attention à avoir et à entretenir un maximum de relations qui font vraiment réussir l'industrie. Parce que ces personnes sont influentes à l'échelle d'un projet, oui, et c'est ça qui m'importe.
Alors, avant de me répondre, vous avez hésité entre inspirant et important. Et ben, quand vous avez un problème, quand vous avez besoin de réconfort, qui appelez-vous ?
Alors, dans l'histoire de Compagnium, on s'entoure toujours d'un écosystème, l'écosystème industriel. On a notre comité stratégique, qui sont des personnes de très grande confiance et que j'appelle quand ça ne va pas. Mais ce qui est très fréquent, c'est que donc, dans cet écosystème industriel, j'ai fait des rencontres d'acteurs très engagés. Ces rencontres sont devenues beaucoup plus que des rencontres professionnelles. Ce sont des rencontres personnelles. Quand ça ne va pas, je prends mon téléphone et j'appelle une personne au choix des associations dans lesquelles je suis engagée dans l'industrie. On est un collectif, une communauté qui se serre les coudes. Et c'est ça qui est beau aussi dans l'industrie, c'est qu'on crée et on renforce cette solidarité tous les jours.
Et bien justement, plutôt que de poursuivre notre entretien de façon un peu bilatérale, On a un autre industriel qui est à notre table. On a donc la chance d'avoir Frédéric De Oliveira, qui est directeur général donc de la société Uni. Alors, pardon pour le bruit autour de nous, c'est qu'une tempête se lève dans les jardins de l'abbaye. Donc, si le micro est... Alors, je ne sais pas si au niveau de la captation micro, c'est toujours bon pour nous. Donc, on a la chance donc d'avoir Frédéric De Oliveira, donc le directeur général d'Univera. Univera, qui est un concepteur d'outils sur mesure pour de grands fleurons, aéronautique, armement et ferroviaire. Même question que pour Madame Sachs. À quel moment vous avez embrassé le monde industriel et cette activité qui est challengeante?
Bonjour. Moi, ça a commencé très tôt, en fait. Alors, c'est peut-être le genre est masculin, mais c'est vrai que très tôt, j'ai joué à tout ce qui était Lego, mécano. Et donc, c'est vrai que tout de suite, je me suis intéressé à tout ce qui était assemblage, montage. Et j'ai souvenir que dès la troisième, on avait la chance d'être dans une école qui nous montrait beaucoup l'industrie. Et donc, je me suis tout de suite dit, il y a du travail dans ce domaine-là. Ça me plaît. Et puis, je rêverais de faire la première voiture volante en 2000. Donc, j'y suis pas tout à fait arrivé, mais en tous les cas, c'est ce qui m'a donné le moteur pour m'engager dans cette filière industrielle et poursuivre mes études dans ce domaine-là et attaquer ensuite en sortant de l'école dans le domaine industriel. Oui.
Alors justement, on voyait avec Madame Sachs que chaque matin, elle sortait travailler et elle inspirait ses enfants. Vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré ou c'est, comme vous dites, les professeurs, les rencontres que vous avez faites lors de votre parcours de formation seulement?
Oui, c'est plutôt les rencontres. Et par contre, j'ai en effet fait des belles rencontres qui m'ont inspiré pour devenir chef d'entreprise. Des dirigeants d'entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, qui m'ont grandement inspiré, qui m'ont grandement montré que c'était possible de créer son entreprise, que j'avais un profil qui correspondait assez bien, parce que je n'étais pas quelqu'un de très vertical, comme on dit. Je n'étais pas un profil qui se perfectionnait dans un domaine, mais j'aimais justement toucher un petit peu à tous les domaines de l'entreprise. Donc c'est un profil qui correspond bien à un chef d'entreprise.
Je crois vraiment... que même vous occupez de la partie commerciale d'Univera.
Oui, complètement. Souvent dans les PME, puisque nous on est une PME aujourd'hui argenteuillaise, le dirigeant est souvent le premier commercial. Donc c'est complètement le cas. En effet, je participe, j'accompagne mes équipes sur le terrain et j'aime aller sur le terrain, puisque nous, notre métier, c'est d'être au plus près des demandeurs, des utilisateurs, pour concevoir l'outil le plus adapté à leurs contraintes.
Alors justement, le terrain, ça nécessite, comme on l'a vu pour Madame Sachs, une routine pour se tenir en forme. Quel est votre secret pour vous, Frédéric?
Alors, une routine sur le terrain, c'est assez compliqué. C'est vrai qu'on peut être dans le sud de la France, comme dans le nord, comme à l'étranger. Mais j'ai une routine plutôt... On a une routine plutôt au sein de l'entreprise. C'est le café du matin. Tous les matins, on se regroupe, toute l'équipe, toute l'entreprise se regroupe pour prendre le café. J'aime beaucoup ce moment-là parce que déjà, ça crée du lien entre les équipes. On voit au premier regard aussi un petit peu l'ambiance qu'il peut y avoir. On peut détecter des problèmes ou autres. Donc ça, c'est pour moi assez important. C'est un moment où on ne parle pas forcément boulot. En ce moment, on parle très foot, hein, forcément, avec l'actualité de la Coupe du Monde. Mais voilà, c'est un moment très fédérateur. Et puis, c'est vrai que souvent, quand on a des livreurs qui arrivent à 9h le matin, quand on est tous au café, ils ont presque l'impression qu'on est en grève, tous posés devant l'entreprise en train de boire le café.
Alors, une petite équipe, mais des grands noms dans votre carnet de commandes. Je vais parler du ferroviaire avec SNCF, RATP, Keolis. Vous avez la chance d'avoir Dassault également au niveau de l'aéronautique. Vous avez également des grands noms comme Alstom, comme Air France, etc. C'est quoi la clé de réussite pour fidéliser ces grands groupes et qu'ils n'aillent pas voir ailleurs?
C'est le sérieux, la qualité. C'est vraiment, dès le début, on a toujours voulu faire des produits de très haute qualité. On est en France, on a la chance de pouvoir le faire et c'est aussi un des marqueurs, je pense, pour l'industrie française, c'est de faire des produits de qualité. Donc nous, notre but, c'était pas de faire de l'outillage qui pourrait être copié n'importe où. Et donc c'est vraiment d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les utilisateurs, et ça, ils apprécient beaucoup qu'on soit sur le terrain, et vraiment de co-concevoir des solutions pour soit faciliter leur conception, soit faciliter le quotidien des utilisateurs qui travaillent au quotidien. Et donc on va faire des outils qui vont protéger leur santé, puisque l'outillage standard, c'est bien, mais c'est des outils de masse et c'est à l'utilisateur de s'adapter à la clé qui est toute droite. Nous, on va faire la clé tordue qui va lui faciliter le quotidien. Donc, on va protéger sa santé vraiment en adaptant l'outil et on va le rendre plus productif, bien entendu, grâce à ces outils adaptés.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Une question, Jacqueline?
Oui, moi je voulais vous demander, nous sommes dans les jardins de l'abbaye d'Argenteuil, pourquoi, je pose la question à tous les deux, pourquoi avoir choisi Argenteuil pour développer votre activité?
Alors pour ma part, Argenteuil, c'est Une opportunité déjà, une opportunité et puis assez clairement c'est un écosystème. Nous industriels, comme je dis souvent, moi j'ai la chance de pouvoir aller à pied chercher ma matière première, de pouvoir l'usiner chez moi ou d'avoir un partenaire à pied qui peut me donner un coup de main sur certaines technologies. Il y a un réseau, il y a tout un système qui fait qu'aujourd'hui Argenteuil est vraiment un écosystème industriel très important en Île-de-France et en France. Et c'est bien plus tard en fait que j'ai pu rencontrer monsieur le maire et ses équipes et l'agglomération et me rendre compte qu'en fait c'était porté, c'est habité vraiment par monsieur le maire qui veut que sa ville reste une ville industrielle. Et donc c'est un plaisir de travailler ici. Il y a tout un écosystème qui nous... Enfin pour les industries c'est un plaisir.
Madame Saxe.
Alors pour ma part, la rencontre avec Argenteuil, elle s'est plutôt fait côté académique, hein, via l'ESSEC. J'ai eu le plaisir de rencontrer il y a déjà quelques nombreux mois des élus d'Argenteuil et leur présenter un projet académique qui est donc celui de la chaire Deep Tech Industrie du Futur qui a vocation à accompagner des acteurs, territoires comme entreprises industrielles qui veulent changer de posture, changer de façon de faire dans l'industrie, innover. Technologie, mais aussi innover sur les marchés, innover sur l'accompagnement. Et il se trouve qu'on a eu une oreille très favorable, particulièrement favorable, du territoire donc Boucle Nord de Seine, qui est le territoire d'industrie qui inclut Argenteuil. On est donc sur un territoire industriel, je suis tout à fait d'accord, qui a envie de challenger ses façons de faire, d'aller plus loin, d'accompagner ses entreprises dans l'innovation. Quelle qu'elle soit, ça se matérialise tous les jours avec Boucle Nord de Seine, avec d'autres territoires qui sont aussi partenaires de la chaire, mais tous ne le sont pas. Et cette volonté de ne plus faire comme avant, c'est très important. On a le cadre de l'industrie à changer, le cadre réglementaire aussi, le ministre vient tout à l'heure, il œuvre et a œuvré, ou en tout cas lui et ses prédécesseurs pour faire changer le cadre réglementaire de l'industrie, la loi industrie verte, des sites clés en main, des facilités. Maintenant, c'est aux acteurs, y compris les territoires et les industriels, et nous avec eux, de se prendre en main et de changer de façon de faire.
Alors, Madame Saxe a évoqué que Argenteuil était une terre de créateurs d'entreprises, une terre industrielle, mais c'est aussi un des départements les plus jeunes, le Val d'Oise et la ville d'Argenteuil. Quel conseil vous auriez envie de donner à un jeune qui doute de son orientation vers l'industrie ? Monsieur Deluivera.
Eh bien écoutez, merci pour cette question puisque on est complètement là-dedans. On a ouvert une école il y a 2 ans maintenant, une école qui s'appelle la Factory Academy, qui a vocation en fait d'aller former les jeunes argenteuillais et de l'agglomération. Et on a été très aidés en cela par la mairie et l'agglomération et on les forme au métier de l'usinage. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est un métier qui est plus qu'en tension, on ne trouve personne. Et donc nous, le principe de cette école, c'est de se dire qu'il y a des jeunes à Argenteuil qui ne savent pas trop où aller. Donc on les prend à 15 ans, de 15 à 18 ans, on les forme, on leur forme un CAP technicien d'usinage. Et ce qu'on leur promet, c'est qu'au bout de 2 ans, bah, si ça les intéresse, ils ont du travail en bas de chez eux, dans toutes les industries argenteuillaises et de l'agglomération. Et donc voilà, c'est vraiment pour nous un conseil, c'est venez voir l'industrie, venez visiter. Nous, on ouvre constamment nos portes aux semaines de l'industrie pour montrer aux jeunes, on accueille les collèges, enfin voilà. On a envie de montrer que voilà, que c'est pas l'image qu'on pouvait en avoir parfois.
Nous avons eu l'opportunité de recevoir votre référent de la Factory Academy,
monsieur,
à la radio.
Oui, tout à fait. Ouais.
Absolument.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Alors, pour conclure, parce qu'après, on va avoir la chance d'avoir monsieur Enfray et monsieur Chouraki à notre micro. Une petite note d'optimisme ou de pessimisme. Lorsque vous allez regarder votre carnet de commandes des 12 prochains mois, donc là on est en juin 2026, et vous regardez votre carnet de commandes jusqu'en juin 2027, Madame Saxe, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ?
Alors je vais vous répondre juste avant, qu'est-ce que je dis à un jeune qui doute ?
Ah oui.
Je l'ai entendu cette phrase, donc je vais vous la redire parce que elle est vraiment emblématique de ce qu'on doit finalement changer. Les jeunes de l'ESSEC qui viennent voir ce qu'on fait sur l'industrie me disent, mais finalement, si je travaille dans l'industrie, est-ce que je me ferme des portes versus d'autres secteurs? Et si je vais dans les services, si je vais dans le conseil, est-ce que finalement c'est pas plus simple parce que je me ferme aucune porte? Non, on se ferme aucune porte. On en ouvre en travaillant dans l'industrie parce qu'on découvre des métiers passion, on apprend de la technique, on apprend des métiers qui sont en tension, on s'ouvre des portes. Et puis pour les beaucoup plus jeunes, parce que j'ai une attention sur le très jeune public, qu'est-ce qu'on dit aux jeunes qui veulent travailler dans l'industrie? En général, les très jeunes, ils sont curieux. Il faut parler aux parents et leur dire que non, on ne se ferme pas de porte quand on travaille dans l'industrie. Et qu'il faut aller chercher des enfants à partir de 6 ans, 7 ans pour les éveiller. Mon carnet de commandes, je dis que je suis prudemment optimiste. Moi, je travaille avec des acteurs qui veulent changer de façon de faire. On le dit beaucoup, on ne le fait pas beaucoup. Et en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit peu moins d'acteurs comme les territoires, les industriels ou les opérateurs, on travaille aussi avec les services de l'État, les investisseurs, qui ont envie de continuer à changer de façon de porter des projets industriels pour qu'ils réussissent. Donc, optimiste, parce qu'on va y arriver, mais il faut être prudent parce qu'il ne faut pas lâcher.
Voilà. Donc, convaincre les parents, sensibiliser les jeunes enfants dès 6 ans au métier de l'industrie en leur disant que ça va leur ouvrir des horizons plutôt que de fermer les portes. Et je reviens à la question, hein, Monsieur De Oliveira, sur votre carnet de commandes à vous, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste pour l'année 2027 ?
Alors, on n'a pas la chance d'avoir une vision aussi lointaine que juin 2027, mais en tous les cas, le carnet de commandes est bien plein. Et on a aussi la chance d'être sur des secteurs et des industries très porteuses aujourd'hui, que ce soit le ferroviaire, parce que ça se développe énormément, l'aéronautique et bien entendu l'armement. Donc, on accompagne, nous, tous ces grands industriels dans leurs projets. Donc, on est plutôt optimiste, puisque les projets fleurissent. Donc, c'est je pense, aussi une résultante de toute l'énergie qui a été faite ces dernières années sur la réindustrialisation. On le sent vraiment, hein. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'industrie. Je vois vraiment qu'aujourd'hui, on est plus fiers de parler d'industrie que ce qu'on pouvait l'être il y a 20 ans. Donc,
voilà. Et pour terminer, en tout cas, sur le carnet de commandes, alors je vous ai dit qu'on débloquait les projets d'investissement industriel. L'une des raisons pour lesquelles je suis optimiste sur cette partie de notre activité, c'est que des projets industriels, il y en a. Ils sont parfois bloqués. Mais les blocages ne sont pas, sont en tout cas, pour la plupart, levables. Donc les objectifs, on peut les lever, on peut agir dessus. C'est plutôt positif bon, pour notre activité, mais de manière générale pour l'industrie, ça veut dire qu'on a des projets. Oui, ça veut dire qu'il y a des freins, mais on sait les débloquer. Donc c'est plutôt positif.
Alors on va avoir la chance d'avoir le monsieur ministre qui va arriver dans un petit quart d'heure, 20 minutes. Et dans les idées un peu révolutionnaires qu'il a mis en place avec la Commission européenne, il y a l'Industrial Accelerating Act qui va faire en sorte que dans tous les contrats, 70% à minima des produits soient assemblés en France, en tout cas avec un membre de l'Union européenne. En dehors de cette idée qui est novatrice, est-ce que vous auriez une idée à souffler à M. Sébastien Martin lorsqu'il va venir prendre la parole ?
Je ne vais pas avoir d'idée, c'est très novatrice, mais par contre je vais l'encourager à poursuivre ses efforts parce que je trouve que c'est une excellente idée. Comme je le disais, on a un fossé où on ne trouve plus un seul technicien d'usinage. On a un fossé de 20-30 ans qui s'est créé parce qu'on nous disait de poursuivre les études et que l'industrie c'était fini. Depuis quelques années, on sent ce retour. Je vois des jeunes moi, qui viennent dans nos écoles et qui sont vraiment motivés, que ça intéresse et qui n'ont plus ces freins qu'on pouvait avoir. Donc c'est des actions en tous les cas qui vont dans le bon sens. Donc
poursuivre l'élan.
Il faut poursuivre l'élan.
Et initier depuis quelques années.
Et même s'il y a beaucoup de vents contraires qui peuvent arriver en ce moment, ne pas lâcher et poursuivre.
Madame Sachs, le mot de conclusion sur une idée à souffler à Monsieur le Ministre ?
Poursuivre l'élan, c'est très bien. Et par ailleurs, sur la commande publique, qui est un sujet qui m'importe beaucoup, le cadre est en train de changer sur la façon dont on achète plus de projets ou de produits, de services liés à l'industrie. C'est bien de changer le cadre. Il a changé, il continue à changer. Et il faut que les acheteurs publics changent de pratique. Ça ne sert à rien de changer le cadre si au sein en particulier des collectivités territoriales et en particulier des territoires d'industrie qui sont pilotés par le ministère de l'Industrie, les pratiques ne changent pas. Donc il faut former, sensibiliser beaucoup plus que les collectivités locales, quand elles lancent des appels d'offres, fassent des soutenances, qu'elles écoutent les industriels parler autant qu'elles ne les lisent. Parce que quand on propose un nouveau service ou un nouveau produit industriel, très souvent il est innovant, il ne rentre pas dans les cases. Donc il faut s'écouter, il faut changer de pratique.
En tout cas, on vous remercie. Donc, je rappelle que nous avons accueilli Virginie Sachs, cofondatrice de Compagnium, un cabinet de conseil en stratégie industrielle et gouvernance. Et à ses côtés, Frédéric De Oliveira, qui était le directeur général donc, de la société Univera, qui conçoit des outils et des rangements sur mesure et qui est basé sur la ville d'Argenteuil. Merci à vous. Petite page.
Merci Frédéric. J'ai trouvé mon successeur pour l'économie en direct.
Regarde-toi, assise dans l'ombre, à
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
L'économie en direct sur IDFM Radio. Retour aujourd'hui, 26 juin 2026, sur la 5e édition des Immanquables d'Argenteuil qui s'est tenue le 18 juin 2026 dans la ville d'Argenteuil. Un rendez-vous en présence de Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'industrie, invité donc par la ville d'Argenteuil pour échanger avec les entrepreneurs et découvrir les dynamiques économiques du territoire. En duo avec Frédéric Coste, président de la Ligue des Jeunes Talents, et grâce notamment à Linda Ketcheroud, dans un contexte où la réindustrialisation est au cœur des enjeux nationaux, nous avons tendu, grâce à Olivier Morel qui a assuré la technique, nous avons tendu le micro d'IDFM Radio à des dirigeants d'entreprises, des industriels, des représentants des collectivités et des décideurs publics autour d'un même objectif, échanger sur les défis, les réussites et les perspectives de l'industrie française. Je vous propose de revivre quelques-uns des moments forts de cette rencontre.
On va accueillir notre deuxième duo de chefs d'entreprise, Monsieur Frédéric Enfray et Monsieur Chouraki. Nous invitons à prendre place. On va faire une brève présentation, mais même si on vous connaît, parce que on dit qu'il y a le loup blanc et il y a des chefs d'entreprise à Argenteuil. Alors, Monsieur Enfray, vous êtes directeur général de la société AGP, qui a vu sa naissance sur la ville d'Argenteuil, et maintenant vous êtes aux alentours du bassin de Cergy-Pontoise. Mais vous êtes là aussi un petit peu en tant que président du MEDEF du Val d'Oise, tête de réseau donc du patronat local. pour pouvoir contribuer à cet élan qu'on a évoqué avec M. De Oliveira et Mme Sachs, l'élan du cluster de l'industrie sur le bassin d'Argenteuil. Et à vos côtés, il y aura également donc M. Chouraki, Yoann Chouraki, qui est le directeur général de Bonsoir. Hexagone Manufacture, qui a été fondé en 1987. Exactement. Donc on va fêter bientôt vos 40 ans. Je rappelle qu'on fête aussi les 100 ans de on va célébrer la commémoration de la mort de Claude Monet en fin d'année. Et il y a l'exposition immersive juste à côté. Et donc, en tant que directeur général donc, d'Hexagone Manufacture, vous êtes dans la robotique, hein, vous êtes dans l'air du temps.
Tout à fait.
Vous fabriquez des robots autonomes qui vont aussi bien nettoyer les piscines des particuliers et des collectivités, et également s'occuper des parcs, des stades et autres espaces verts des collectivités. Première question, hein, pour faire connaissance avec vous, si vous devez nous pitcher, monsieur Onfray, votre quotidien de chef d'entreprise pour lever des fonds, qu'est-ce que vous nous diriez sur AGP, sur le MEDEF ?
Alors, c'est pas tout à fait la même chose que sur le MEDEF. On cherche des adhérents et des cotisations, mais on lève pas vraiment de fonds. Voilà. Sur ma société, je dirais on est ce qui aurait été une start-up en 77, puisque c'est une vraie histoire d'un entrepreneur qui s'appelait Bernard Pollet qui a démarré son activité en entreprise individuelle en 77 ici, qui l'a développé. On a eu quelques adresses un peu mythiques. On a eu Avenue du Parc en face de l'entrée de l'usine d'Assault. Et on a occupé aussi à une époque les anciens locaux de l'ADA. Donc voilà, donc on a.
Je crois qu'il y a une petite anecdote sur un poster de l'ADA dans l'usine.
Alors il y avait encore les posters des voitures. Excusez-moi. Et au sous-sol, on avait encore la LADA moteur Porsche de Jackie X qui avait fait le Dakar. Qui n'était plus toute fraîche, mais qui était toujours là.
Même challenge, pitchez-nous en une minute Hexagone Manufacture.
Alors Hexagone Manufacture, c'est une société qui est basée sur Argenteuil. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, en fait, elle a été fondée en 1987 par mon père et un monsieur qui s'appelait Jean-Pierre Papalardeau. Donc je suis la deuxième génération, j'ai repris l'affaire en 2006. Aujourd'hui, nous sommes un groupe de 130 personnes et nous sommes le leader mondial en fait dans le nettoyage des piscines, alors non pas résidentielles, mais des piscines publiques, puisqu'on nettoie une piscine sur quatre dans le monde. On est présent dans 57 pays dans le monde. On fait aussi des robots de traçage, on fait des robots de tondeuse pour les parcs, les stades. Donc on va équiper par exemple le stade de Liverpool, le stade de Real de Madrid, d'Eindhoven, de Bodo en Norvège, au même titre qu'on va nettoyer les piscines de Los Angeles et d'Argenteuil, bien entendu. Tout ça, en fait, a été conçu par une équipe formidable à Argenteuil, d'ingénieurs, et puis on les fabrique ici, sur Argenteuil, donc on est vraiment une néo-industrie, et effectivement, on est un peu précurseur dans le monde de la robotique, puisque ça fait 40 ans, et donc, en fait, nous, l'IA, ça fait plus de 20 ans qu'on le transforme et qu'on le met au service, en fait, des communes. Voilà.
Votre chiffre d'affaires, vous le faites dans 56 pays, plus de 25 000 robots donc, qui fonctionnent dans le monde.
Oui.
Petite question, Jacqueline, à l'international, pour M. Chouraki.
Oui, donc vous réalisez l'essentiel de votre chiffre d'affaires à l'international. Comment les produits français sont-ils perçus aujourd'hui à l'étranger et quels sont nos principaux atouts face à la concurrence mondiale?
Alors, on a plein d'atouts du moment qu'on veut bien se donner la peine de vouloir combattre. En fait, et l'industrie française a énormément de choses à porter. D'abord sa créativité, son imagination, et puis son savoir-faire. Au final, en fait, on est en ayant 40 ans d'expérience, en fait, on arrive à créer des nouveaux produits qui sont le fruit en fait d'une expérience. Et puis, je crois qu'on a une philosophie de durabilité. Et on pourra peut-être l'évoquer par la suite. Mais l'industrie en fait française s'en sortira gagnante lorsqu'en fait on arrêtera d'avoir des produits jetables et qu'en fait on travaillera sur des produits durables. Nous, en fait, un de nos créneaux, c'est la durabilité légendaire de nos produits. C'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait qu'une piscine à Sydney, une piscine en Malaisie, à Kuala Lumpur, à Shenzhen, alors que c'est le lieu de la Silicon Valley chinoise, achète quand même encore des robots hexagones.
Oui, donc le mot-clé, c'est l'audace.
Un véritable exploit.
On entend l'audace, la créativité, l'innovation. Il me semble, Jacqueline, que vous avez une question, parce que lors des universités d'été du MEDEF, la thématique de cette année, ça va être le courage.
Absolument. Donc, j'ai pu voir que la REF de cette année place le courage au cœur des débats. Donc, selon vous, quel est aujourd'hui l'acte de courage le plus fréquent chez un chef d'entreprise, Frédéric ?
C'est d'être toujours chef d'entreprise, je pense. Mais je pense pas qu'on se pose la question en termes de courage. On arrive le matin, on fait ce qu'il y a à faire, on traite les problèmes. Et je sais pas si on est courageux. Je crois qu'il y a plein d'autres professions qui sont bien plus courageux que nous. Simplement, je crois qu'on essaye de faire notre travail avec le plus de résilience possible, avec des fois des hauts, des bas, selon les activités, selon les périodes, et selon la gestion des personnels ou autres. Mais encore une fois, je n'ai pas l'impression qu'on soit courageux.
Ah oui.
Voilà, on est comment je dirais, besogneux, on est tenace, on est. Mais le courage, c'est pas une question que je m'étais posée.
Est-ce qu'il y a une décision que vous auriez prise à contre-courant et qui s'est finalement révélée être une bonne décision ?
Alors, je pense que quand on est chef d'entreprise, il y en a beaucoup qui sont en contre-courant et qui sont bonnes. Il y en a aussi beaucoup qui sont à contre-courant qui sont moins bonnes. J'ai l'habitude, des fois, quand je pousse mes équipes, de revenir quelques jours après en disant « Bon, j'ai bien réfléchi, je crois que vous aviez raison ». Et voilà, c'est une somme. Tous les jours, on prend des décisions et tous les jours, on se trempe et on affine. L'essentiel, c'est de ne pas prendre des décisions ou le moins possible qui soient un peu irréversibles et coûteuses.
Et vous, Monsieur Chouraki, ce genre de décision à contre-courant ?
Oui, bien sûr. En fait, c'est le propre du chef d'entreprise. Et puis, je crois surtout qu'en fait, être chef d'entreprise, d'abord, c'est mille façons. À la fois, il y a mille êtres humains, il y a mille façons de gérer et de voir les choses. Pour ma part, c'est une tranche de vie et c'est une vision en fait un peu globale. En plus, nous, on est dans la robotique, donc en fait, on est quand même basé sur l'avenir, le futur. Et donc, en fait, il y a des décisions à prendre par rapport à des prospectives, par rapport à des idées, des technologies qui peuvent arriver et qui vont arriver et donc en fait qui amènent des changements, et il faut savoir les sentir et d'amener à ses équipes en fait ce futur pour sentir en fait les éléments à amener et à faire pour qu'il y ait du succès dans la structure.
Alors moi je suis curieuse parce que comme vous nous avez dit que c'est votre père qui a créé l'entreprise, vous fabriquiez déjà des robots de piscine ?
Oui, alors mon père était spécialisé dans le monde de la piscine, plutôt pour le chlore.
Oui.
Pas pour la piscine, mais on avait une petite branche piscine, en fait, robotique piscine. Et donc, on a appris, j'allais dire, de nos concurrents aujourd'hui, qui étaient avant des fournisseurs. Et puis, on s'est décidé à sauter le pas et à faire de nos propres robots par rapport, justement, à notre propre philosophie et notre propre ADN.
Merci, Monsieur Chouraki.
Merci.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
Frédéric Enfray, vous nous rappelez l'activité de AGP ?
Alors, on est spécialisé en sécurité incendie. L'histoire du groupe, c'est un artisan qui installait les systèmes de désenfumage naturel. Parce qu'en France, les réglementations sont arrivées dans les années 70, après les incendies mortels, notamment dans un dancing. Les choses qui se sont passées en Suisse à Crans-Montana, mais globalement, en France, on a 50 ans d'avance par rapport à ça. Et puis au fil du temps, on a eu des législations qui imposaient la vérification de ces systèmes. Donc il a créé les sociétés de maintenance. Et après, comme il n'était pas content des produits, il est devenu industriel en concevant les produits. Alors comme c'est quelqu'un qui avait une vraie histoire, avec un CAP d'ajusteur, orphelin de père, pas d'argent, il a toujours été très fort sur le commerce et justement le côté visionnaire. Et donc il a structuré la société avec un bureau d'études qui concevait les produits. Pas de machine, puisqu'il sous-traitait le découpage des pièces et autres, et l'assemblage et la distribution des produits. Donc on est industriel, mais j'ai coutume de dire qu'on est concepteur, monteur, mais pas fabricant au sens de machine oui. complète, quoi. Voilà.
Alors il y a une question qu'on a posée au précédent chef d'entreprise, qu'on va vous poser également. On sait que la situation est tendue, hein, économiquement aujourd'hui, internationalement. Est-ce que quand vous regardez votre carnet de commandes, vous êtes plutôt optimiste ou prudent pour les 12 prochains mois ?
Alors,
Frédéric,
nous, on a passé une période compliquée. On a restructuré une des entreprises principales. Aujourd'hui, les carnets de commandes sont en forte hausse. Mais on est quand même dans un secteur qui est protégé. D'une part, on est protégé par la norme. On protège des personnes, sécurité incendie. Et puis aujourd'hui, on a beaucoup de rénovations de bâtiments, donc je dirais qu'on est plutôt dans un secteur apaisé, protégé. Donc mon carnet de commandes à 12 mois, je n'ai pas de crainte.
Plutôt voilà. Optimiste alors.
Mais
prudemment.
Il faut faire quand même extrêmement attention dans tout ce qu'on dit sur les activités. Les activités, les entreprises sont extrêmement hétéroclites. Il y a des entreprises qui sont juste sur le territoire, il y a des entreprises qui sont sur toute la France, des entreprises qui sont à l'export. Et donc les problématiques sont assez différentes. Donc quand on a une vision générale, elle est souvent très diffuse. Après, effectivement, on est quand même dans un contexte, notamment les incertitudes politiques, qui fait qu'il y a une difficulté à avoir une vision globale dans beaucoup de métiers.
Merci Frédéric Anfray. Monsieur Chouraki, vous, optimiste, prudent ?
Oui, moi j'essaie d'être optimiste. Ce qui est sûr, c'est que le monde actuel en fait est complexe, et donc en fait répondre à une question, j'allais dire soit par une affirmative ou non, en fait est très complexe. D'abord, ça va dépendre vraiment des situations géographiques, et puis je pense que ça dépend un peu effectivement des sociétés. En ce qui nous concerne, moi j'ai choisi en fait d'aller de l'avant. J'ai choisi justement d'avoir de l'audace, comme on le disait tout à l'heure, et donc en fait je crée des nouveaux produits, je crée des nouveaux marchés, en fait, qui ouvre des perspectives et ce qui permet en fait d'aller chercher de la croissance par en fait de l'expansion par mes idées, par nos idées et par par nos produits. Et en fait rien n'arrive tout seul et il faut juste se bouger un peu les fesses.
Les fesses, oui. Et alors en vous écoutant, je me disais que avec le changement climatique, on va avoir besoin de plus en plus de piscines. Donc c'est peut-être une bonne chose dans votre cas.
Oui, c'est, alors, une bonne chose, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en fait, nous, avec cette idée de durabilité, en fait, on a aussi très à cœur en fait la RSE. C'est une évidence aussi que c'est peut-être par là qu'on ira sauver un peu de l'industrie française, parce qu'en fait, il y a quand même des pays qui sont aussi touchés et sur lesquels en fait nous on peut répondre. Et donc en fait, moi, je vois plutôt le réchauffement climatique pas forcément comme un énorme potentiel, j'allais dire, sur les machines, enfin sur la piscine, parce que piscine publique, encore une fois, reste quand même en fait une niche de marché. Les stades, par exemple, en gazonné, perdent du terrain, c'est le cas de le dire, au profit des gazons synthétiques. Et donc, en fait, on a sorti un robot pour les gazons synthétiques. Mais en fait, ce qui est certain, c'est qu'en fait, avec ce réchauffement, on a une prise de conscience à avoir.
Viens comme tu veux, en avion, en courant, en marchant dans un jour, une heure ou maintenant. Viens comme tu es, avec ou sans accent, étranger, sans frontières, sans drapeau libre en frère. Viens sans amour, tendre ami, toi l'amoureux de la vie, avec tes qualités, tes défauts aussi. Viens, et peu importe ton genre, le ciel saura bien te comprendre sans te juger. Viens tout recommencer. Viens sans raison, peu importe la saison, au soleil, sous la pluie, à l'abri des intempéries. Viens te chauffer, te blottir, sans aucun projet d'avenir, sans en rougir, oui viens sans réfléchir. Viens si t'as mal, si t'as peur, quand t'es seul comme un chien abandonné, ça va te faire du bien. Viens sans pudeur, sans penser au passé, en passant ou pour rester, oui viens sans hésiter. Allez viens. Ni victoire, sans superbe et sans gloire, sans lumière, le cœur en bandoulière. Viens sans guitare, sans piano, ici et à tout ce qu'il te faut. Tu verras, demain tout changera. Viens héritier ou mendiant, l'un derrière, l'autre devant, sans croissant, sans les fleurs, sans l'argent. Viens, la nuit au soleil levant, viens quand tu seras pas bien dedans. Mon ami, tu seras toujours chez toi ici. Allez, viens.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
L'économie en direct sur IDFM Radio. Retour aujourd'hui, 26 juin 2026, sur la 5e édition des Immanquables d'Argenteuil, qui s'est tenue le 18 juin 2026 dans la ville d'Argenteuil. Un rendez-vous en présence de Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'industrie, invité donc par la ville d'Argenteuil pour échanger avec les entrepreneurs et découvrir les dynamiques économiques du territoire. En duo avec Frédéric Coste, président de la Ligue des Jeunes Talents, et grâce notamment à Linda Ketcheroud, dans un contexte où la réindustrialisation est au cœur des enjeux nationaux, nous avons tendu, grâce à Olivier Morel qui a assuré la technique, nous avons tendu le micro d'IDFM Radio à des dirigeants d'entreprises, des industriels, des représentants des collectivités et des décideurs publics autour d'un même objectif, échanger sur les défis, les réussites et les perspectives de l'industrie française. Je vous propose de revivre quelques-uns des moments forts de cette rencontre.
Alors, avant de poursuivre notre interview avec Frédéric Anfray, président du MEDEF, et Johan Chouraki, président, directeur général de Hexagon Manufacture, on va souhaiter bienvenue à la 5e édition des Immanquables 2026, où on rappelle à l'ensemble de nos invités qu'il y a un plateau radio sous les vignes pour pouvoir venir se faire interviewer. Mais surtout, les équipes de la Défi de la ville d'Argenteuil vous ont prévu plusieurs spots afin de pouvoir découvrir le passé industriel de la ville d'Argenteuil. Là où vous voyez face à la terrasse des grandes lithographies, des grands panneaux, c'est l'aventure industrielle d'Argenteuil, de la révolution industrielle à aujourd'hui, donc plus de un siècle et demi de passé industriel sur Argenteuil. Vous avez deux médiatrices qui sont là pour vous conter l'histoire d'Argenteuil et de son passé industriel. Ensuite, vous avez le Made in Argenteuil, ce sont les petits box blancs au niveau des figuiers où sont exposées une dizaine de pièces de l'aéronautique, du ferroviaire, de l'armement, de l'agroalimentaire, des fleurons du territoire d'Argenteuil.
Et de la robotique.
Et la robotique, justement, sur le promontoire rouge, où il y aura un des robots autonomes de la société Hexagon Manufacture. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, Claude Monet, l'impressionniste, le peintre impressionniste, on va célébrer les 100 ans de, on va commémorer les 100 ans de sa mort. Et donc, en fin d'année, il y aura une exposition. Et en avant-première, sous également les vignes, vous avez des casques de réalité virtuelle qui vous immergent justement dans ces peintures de Claude Monet. N'hésitez pas également à aller vous restaurer du côté du bar à jus, qui est au niveau de la petite piscine et pas loin des vestiges des jardins de l'abbaye. Mais en attendant de vous retrouver tout à l'heure avec Monsieur le Ministre, nous allons poursuivre notre interview avec Monsieur Anfray et Monsieur Chouraki.
IDFM, 98FM.
Pour réussir, il faut être courageux, mais surtout travailler. Vous avez dit, Monsieur Anfray, il faut besogner. Petite question un peu intime, je connais la réponse et elle m'a surprise. J'imagine que des chefs d'entreprise comme vous, vous avez des routines matinales pour vous mettre un petit peu en action. Monsieur Anfray, quelle est votre routine matinale ?
La routine matinale, c'est de prendre le café tranquillement, en regardant les derniers mails et en faisant quelques réponses. Et le chat vient ronronner, et je pense qu'il apporte une certaine douceur sur le début de la journée. Voilà, donc ça c'est la routine pour la maison. Et le bureau, c'est de faire le tour le matin de bonne heure avant que les équipes aient vraiment démarré. Alors, je ne suis pas là tout le temps très tôt, mais quand je peux, j'y suis à 7h30. Et on prend la température de l'entreprise et on discute entre guillemets de tout sauf du boulot. Ou incidemment. Voilà, donc c'est deux routines.
Monsieur Chouraki, quelle est votre routine ?
Alors des félins, ça c'est ma vie personnelle. J'éviterai d'en parler. Mais par contre, la routine, en fait, étant énormément à l'export, en fait, on a des fuseaux horaires qui sont complètement différents. Et donc la première routine, c'est soit de parler avec l'Asie, soit de parler en fait avec les Américains. Puisqu'en fait, en début de matinée, moi je me réveille généralement aux alentours de 5h du matin. Et donc en fait, j'ai des conversations ou des échanges, des visios avec nos différents partenaires en fait dans le monde. Ça c'est la première routine en fait au final, et plus ça va et plus en fait j'aime cette routine. La deuxième, c'est de réussir en fait à gérer ce que j'ai à faire pour arriver au bureau en fait tranquillement et pour pouvoir me concentrer en fait sur les équipes et de savoir un peu ce qu'elles doivent faire et qu'en fait tout le monde sache quoi faire.
On est sur la ville d'Argenteuil, qui est qui est sur le département du Val-d'Oise, un des départements les plus jeunes avec celui de la Seine-Saint-Denis. La ville d'Argenteuil est une ville très jeune. Monsieur Chouraki, on voit l'héritage familial. Vous avez repris la société de votre papa. Mais une question pour vous deux. Quel conseil vous pourriez prodiguer à un jeune d'aujourd'hui qui est en âge de s'insérer professionnellement pour lui donner envie d'aller vers le secteur industriel? Monsieur Chouraki.
En fait, la question, c'est que quand on a une volonté d'entrepreneuriat, on a aussi une volonté de bâtir. On est des bâtisseurs. Il y a eu des bâtisseurs de cathédrales et il y a en fait les bâtisseurs de l'industrie. Et au final, dire aux jeunes de venir dans l'industrie, c'est leur dire qu'en fait, ils vont bâtir une vie. Encore une fois, je reprends l'idée de tranche de vie. Et en fait, c'est cette idée qui doit venir dans le sens qu'on a envie de bâtir. Mais je crois que on peut parler autant qu'on veut, c'est quelque chose qui est en nous. Vous l'avez ou vous l'avez pas. Vous pouvez l'apprendre, certes, mais en fait, cette envie de bâtir, de construire, il faut l'avoir. Après, quelle que soit l'idée, il faut pas avoir peur des idées qu'on puisse avoir. L'important, c'est d'y croire, de penser qu'on est le meilleur. Parce que mine de rien, en fait, ne pas croire en soi, c'est une erreur. On voit bien avec Trump, it's awesome, it's fantastic, it's incredible. Il démontre quand même à travers tout ça qu'en fait, un bâtisseur doit croire, il doit avoir une certaine vision des choses. Bien entendu, le chemin est rude, il est laborieux, il est compliqué. Il peut même être mortel pour certains. Mais dans la vérité, en fait, c'est que c'est le voyage qui est beau.
C'est la flamme, l'œil du tigre qu'il donne comme conseil à la jeunesse argenteuillaise pour entreprendre. Quel est votre conseil, monsieur Enfray?
Je crois qu'il y a des expressions assez habituelles, croire en ses rêves, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à chaque fois qu'on fait quelque chose et qu'on veut se mettre à son compte et qu'on veut démarrer, si on commence à écouter tous les pourquoi faut pas y aller, on a perdu ses rêves. Justement, je crois que c'est une aventure et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, on voit les gens qui sont mis à leur compte, on est transformé au bout d'un certain nombre d'années. Parce que on a vu tout un tas de choses, on est obligé de faire la synthèse, on est obligé d'être régulièrement au bout de soi-même. On a plein de périodes dans la vie où on croit qu'on a atteint et puis on passe encore un autre cap, il faut passer des périodes. Donc en fait, vous avez un peu une sorte de quête, au point de vue intellectuel, la même chose qu'un sportif qui va se dépasser, qui va un coup réussir, qui va un coup trébucher. Alors on n'a pas les mêmes talents et on n'a pas les mêmes la même visibilité. Mais je dirais que c'est ça, c'est se remettre en cause. Aujourd'hui ça marche, mais les concurrents progressent parce les concurrents nous font toujours progresser à un moment donné, ou alors ils nous tuent. et c'est se remettre en cause, ne pas croire que tout est arrivé, ne pas aussi être intéressé que par l'argent. On ne réussit pas si on est intéressé par l'argent. Je pense que c'est un projet. Si on fait bien son projet, on va gagner plus ou moins d'argent et on va réussir. Et je pense que la plus belle réussite, c'est d'être soi-même. Et d'avoir réussi là où d'autres se sont découragés dès le départ et ne sont pas partis. Quoi.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Si je peux rajouter quelque chose, on a été à un forum sur la dalle d'Argenteuil. On était une des seules PME d'ailleurs à être présent avec. Après, il y avait la SNCF, la RATP.
C'est le forum à venir, en effet, début avril.
C'est ça. Et alors, c'était pas cette année, celui d'avant. Et en fait, il y a un petit jeune qui est venu, qui voit qu'on fabrique des robots et qui dit moi, j'aime la robotique. Alors, je lui dis tu aimes bien, tu es fort en maths, en physique. Il me dit oui, je suis le meilleur. Mais ils me disent tous qu'il faut que j'aille dans un CFA. Faut que je fasse plutôt de l'apprentissage, un BEP, enfin bref, j'ai pas le droit d'aller en seconde générale, enfin ils me conseillent pas d'y aller parce que moi j'habite là. Et en fait, ce que je veux te dire à travers tout ça, c'est qu'en fait, je lui ai dit, il en est hors de question. Alors on l'a pris en stage, on est en train de le suivre d'ailleurs, il est hors de question en fait de croire qu'on n'y a pas droit. Voilà. Moi, j'ai cette chance en fait d'être la deuxième génération, donc en fait, moi j'ai grandi avec une cuillère, pas d'Argenteuil, mais d'argent. Et en fait, donc j'ai pas le droit de, je suis pas légitime à parler parce qu'en fait j'ai eu cette chance de pouvoir être là. Mais alors je me bats aujourd'hui pour en être redevable. Mais au-delà de ça, il y a plein de gens ici, cette jeunesse d'Argenteuil, elle a le droit. Et en fait, c'est ça le vrai sujet. Et je crois qu'il y a une force incroyable. Moi, j'ai ressenti, justement, sur ce forum d'avenir, j'ai été bouleversé par cette jeunesse volontaire, optimiste, alors qu'on la dépeint avec des caractéristiques qui sont vraiment pas élogieuses. En fait, j'ai été ouais, admiratif en fait de toute cette jeunesse. La seule chose qui me déçoit et qui me désole, c'est que un petit jeune qui est en troisième et qui puisse me poser la question, est-ce que j'ai droit de devenir ingénieur? Mais c'est inadmissible en France, là en 2026, c'est pas normal. Et c'est ça le vrai sujet. Et je pense qu'en fait, si on doit donner un avis, si on doit donner une idée ce soir pour parler de l'industrie, au-delà de l'industrie, c'est que tu as le droit.
La légitimité. Jacqueline.
Oui, Monsieur Chouraki, juste je veux dire, pour compléter ce que vous venez de dire, vous êtes un héritier, donc, mais c'est aussi une lourde charge hein, de faire vivre un héritage. Et pour le moment, vous y arrivez bien, donc bravo à vous.
Merci.
Alors moi, je voudrais vous poser une dernière question à tous les deux. Dans quelques minutes, le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, va arriver. Si vous vous retrouviez 5 minutes en tête à tête avec lui, quelle serait votre première demande, Frédéric ?
Alors, on est dans un bassin ici où il y a eu énormément d'entreprises liées à l'industrie avec des tailles petites. Je suis arrivé en 88, on avait beaucoup d'ateliers qui ont disparu à la place de beaux immeubles neufs. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de réindustrialisation, quand on parle de tout ça, on oublie qu'on a quantité de talents dans des entreprises de 10, 20, 30 salariés, dont les chefs d'entreprise sont souvent, j'allais dire quelque part, des artisans au sens noble, parce qu'ils ont monté leur société avec leur savoir-faire, et qu'il va falloir qu'on arrive à ce que ces entreprises se regroupent. Ça libérera du foncier d'ailleurs au passage, et que ces entreprises sont très difficiles à moderniser parce que compte tenu de l'âge du capitaine et des investissements, on a du mal à financer. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on a des tailles critiques qui sont plus importantes que ce que c'était il y a 30 ans. Et donc c'est comment on pousse à aider à des regroupements et qu'on aide aussi la transmission entre les chefs d'entreprise actuels et puis ceux qui veulent arriver. Nous, on vient de créer le Comex 40 des moins de 45 ans au MEDEF. C'est un jeune de 34 ans qui a créé une ETI en 12 ans, qui fait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a une énergie folle, qui est sur l'est du département.
Saïd Kilik.
Et on avait le premier rendez-vous ce matin où il y avait 40 personnes sur comment parler à ses banquiers. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un devoir un peu de tutorat, nous qui sommes un peu plus âgés, voire beaucoup plus, pour dire aux jeunes, venez et on va vous donner aussi les tuyaux de ce qu'on a fait. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Il y a 30 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et quand on se créait, c'était compliqué de rentrer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus libre. Mais il faut aussi qu'on transmette et puis que les gens viennent nous voir.
Merci Frédéric.
IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
Même question pour Monsieur Chouraki. Une idée ?
Alors, il y en aurait 5 minutes en tête à tête avec le ministre de l'Industrie.
Il y en aurait 10 000 d'abord parce que quand on fait de l'export, en fait, on a des sujets en fait, de compétitivité. Et donc, en fait, c'est important de pouvoir échanger là-dessus, ne serait-ce que sur les salaires et sur les charges qui peuvent incomber à une PME. Mais au-delà de ça, je pense que pour être un peu plus éloquent et pour aller dans le sens de M. Onfray, je pense qu'en fait effectivement le tutoriat en fait le compagnonnage en fait moi je j'aimerais que en fait il existe en France en fait du compagnonnage de l'industrie parce qu'en fait l'industrie encore une fois c'est une famille, c'est souvent en fait enfin ce que je veux dire par famille c'est qu'en fait c'est des métiers qui sont des fois durs qui représentent en fait un nombre de métiers incalculable en fait qu'on peut même pas s'imaginer et au final ce tutoriat en fait de ceux qui savent faire encore aujourd'hui parce qu'il y a quand même des gens qui savent faire en fait peuvent être prêts en fait à transmettre et c'est exactement le but des compagnons de l'époque et je pense que de créer en fait peut-être un compagnonnage de l'industrie serait quelque chose de très intéressant donc voilà ce que je pourrais éventuellement lui dire ce soir.
Merci donc à cette grande famille d'être venue au plateau donc d'IDFM Radio. On rappelle qu'il y a un grand rendez-vous là de la famille de l'industrie, c'est Vivatech en ce moment, et Eurosatory. Il y a deux grands rendez-vous sur l'armement et sur l'IA et les nouvelles technologies. Il y a eu le Salon Global Industrie, également un événement à ne pas rater chaque année, qui met en lumière le riche passé et futur de l'industrie française. On va vous laisser. On rappelle qu'à notre micro, nous avions Frédéric Anfray, qui était à la fois directeur général d'AGP et également président du MEDEF Val d'Oise. Et également monsieur Chouraki, Johan Chouraki, le directeur général d'Hexagone Manufacture, qui fabrique des robots autonomes et la robotique. On peut être légitime dès son plus jeune âge à se former à ces métiers pour y travailler. À tout à l'heure pour la suite de nos interviews.
Merci.
À tout à l'heure.
Tu me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour c'est une impasse et derrière l'océan, que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent, que tout refait surface comme hier droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps, qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant, pour regarder en arrière, revenir en souriant, en gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore par cœur, ce que je sais par cœur. Beau malheur, tu me dis que rien n'efface, ni la craie ni le sang, qu'on apprend après la classe ou après ses 30 ans, qu'on peut dire trois fois hélas, que personne ne l'entend, comme personne ne remplace ceux qui partent pour longtemps. Tu me dis que vient l'hiver, qu'on oublie le printemps, que l'on vide les étagères, qu'on remplit autrement, qu'on se rappelle les yeux verts, le rire à chaque instant, qu'après tout la voix se perd mais les mots sont vivants. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur.
IDFM Radio, 98 FM.
On poursuit notre interview aux immanquables d'Argenteuil et avec nous deux nouveaux chefs d'entreprise. Donc je vous laisse vous présenter. Bonjour.
Alors bonjour à tous. Moi je m'appelle Valentin Zopis, donc j'ai 28 ans. Je travaille en collaboration du coup avec Léo depuis quelques mois déjà. On travaille sur le projet du développement d'une solution adaptable à la quasi-totalité des maisons à usage d'habitation qui est fait pour lutter contre le risque inondation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut installer une solution globale, interconnectée, avec différents outils industriels qui permettront de lutter contre le risque inondation.
Comment vous est venue cette idée de création
Alors,
d'entreprise?
Si je vous raconte la genèse du produit...
Parce que vous êtes jeune, donc
c'est un peu,
vous avez toujours baigné dans ce milieu d'entrepreneurs.
C'est ça, c'est ça. En fait, moi, je fais de la coordination de travaux depuis quelques années maintenant. J'encadre des entreprises et des entreprises commerciales pour faire la passerelle avec leurs sous-traitants et un peu leur apporter de la technique, de la gestion au niveau terrain. Et en fait, il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, j'ai écouté le témoignage de Madame Aziza, Emma Aziza, qui est une des plus grandes spécialistes en hydrologie en France, qui parlait d'un fonds qui s'appelle le fonds Barnier, qui est largement sous-utilisé en France. Et c'est un fonds qui est dédié à la prévention du risque inondation, qui est très peu connu par les particuliers, qui est utilisé par certaines collectivités pour financer des travaux d'infrastructure, mais qui est ouvert à tous les particuliers en France sans condition de revenu à partir du moment où vous êtes sur une zone inondable. Et aujourd'hui, j'ai eu les témoignages de vraiment énormément de personnes, dont des personnes qui ont été sinistrées, qui n'avaient jamais entendu parler de ce fonds. Pourtant, ce fonds-là peut prendre en charge jusqu'à 80% d'une enveloppe de 36 000 euros de travaux. Donc je suis parti de cette idée, pourquoi les particuliers ne connaissent pas cette solution et surtout pourquoi elle n'est pas largement utilisée alors qu'on a un fonds qui quand même pèse 525 millions d'euros aujourd'hui. Et j'en suis arrivé à un constat simple, c'est qu'aujourd'hui on a très très peu de solutions qui sont réellement efficaces dans le domaine de la protection des inondations. On a des petits acteurs qui développent un peu chacun de leur côté des solutions qui sont plus ou moins efficaces, mais tant que rien n'est mis en commun, en réalité on n'éloigne pas le risque. Vous avez beau avoir une barrière sur votre porte d'entrée, si l'eau remonte par les toilettes, l'eau remonte par les Bien toilettes. Sûr. Donc en fait, à partir du moment où on ne développe pas vraiment une solution globale qui s'adapte à une majorité des habitations, on n'a pas d'efficacité, donc on n'a pas de reconnaissance d'assurance, on n'a pas de reconnaissance au niveau de la valeur de votre maison. Quelqu'un qui est en zone inondable, qu'il a un bâtard d'eau sur sa porte aujourd'hui ou non, la valeur vénale de sa maison reste la même. Alors que c'est pas normal que quelqu'un qui investisse réellement pour protéger son habitation contre le risque naturel auquel il est exposé ne soit pas reconnu au niveau de la valeur de son habitation. Et nous, du coup, on va travailler aussi derrière, à ce niveau-là, à chercher à faire reconnaître la totalité de la chaîne de valeur, c'est-à-dire dire notre solution est efficace. Les assurances vont potentiellement nous suivre via des rabais de politique d'assurance, comme ils le font déjà pour quelqu'un qui isole correctement sa maison, par exemple, ou qui installe un système Verisure. Quand vous vous protégez contre les cambriolages, vous avez un rabais sur votre politique d'assurance. Si vous vous protégez contre les inondations, vous devriez avoir un rabais sur les politiques d'assurance. Or, aujourd'hui, comme il n'y a aucun, produit qui est réellement performant, mais il n'y a pas de reconnaissance, donc personne ne le fait. Tant que la machine ne sera pas mise en marche réellement, il n'y a rien qui va suivre derrière.
Donc il y a une vraie niche qui se présente.
Exactement.
Que vous allez essayer de...
Voilà,
de
il y a vraiment une niche, mais ça repose vraiment...
C'est une niche qui a une grande taille quand même, hein, parce qu'on parle de 17 millions de foyers... Excusez-moi. On parle de 17 millions de personnes potentiellement touchées et 9 millions d'emplois en France.
Pour vous donner un ordre d'idée, rien que sur le bassin parisien, il y a 468 000 emplois qui sont directement visés par le risque d'inondation. Si aujourd'hui on a une crue centennale comme on a pu connaître au début du siècle dernier, c'est une catastrophe économique pour l'État français. C'est une catastrophe économique pour le secteur privé dans son ensemble parce qu'on a des assurances qui vont faire défaut de manière exceptionnelle. Et on parle que du bassin parisien. Si on parle de tout le bassin niçois, si on parle du bassin lyonnais, on a énormément de zones inondables qui sont très très peu traitées aujourd'hui. Et on a un peu cette impression depuis quelques années que on repousse le problème sans trop vouloir en parler. Et aujourd'hui, on se retrouve un petit peu en haut de la falaise, si je peux m'exprimer de cette manière-là. Et on ne sait pas comment se retourner. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une démarche qui soit faite au niveau politique pour que tout se mette en place correctement.
Et donc, vous, concrètement, vous agissez comment ?
Alors, nous, du coup, on développe cette solution industrielle à travers un batardeau à relevage automatique. Batardeau d'horloge horloge automatique, pour vous donner une idée, c'est comme un batardeau, comme on l'imagine déjà, mais qui serait enfoui directement dans un caisson et qui se relèverait un petit peu à l'idée d'un clapet d'ordinateur et qui viendrait se caler en façade de chaque côté des ouvertures de votre maison, qui serait relié en fait à travers une application à différents systèmes comme des pompes de relevage, des clapets anti-retour. Il y aurait différents travaux aussi qui seraient faits sur le bâti, comme la surélévation de votre compteur électrique en fonction du niveau de la zone inondable auquel vous êtes sujet, ou l'aménagement d'une zone de survie pour des gens qui sont en plein pied. Aujourd'hui, le fonds Barnier peut aussi prendre en charge l'aménagement d'une zone de survie en combe perdue, c'est-à-dire un escalier escamotable, un plancher et un Velux pour qu'on puisse éventuellement vous élitreuiller en cas d'inondation.
Donc voilà. Ça reste quand même très technique.
Ça reste très technique sur le fond. Après, on s'appuie vraiment sur ce fonds Barnier et le levier des assurances pour pouvoir faire reconnaître notre produit. Voilà.
L'idée aussi, c'est d'apporter un usage assez simple, quoi. Alors qu'en fait, quand vous avez un batardeau actuellement, vous prenez vos bras, vous allez chercher votre batardeau à la cave et vous allez le poser.
Oui, c'est très manuel.
Ouais, là l'idée c'est d'automatiser comme la domotique en fait via votre portable et aussi pour les personnes à distance pouvoir relever ce batardeau à distance.
C'est ça parce que
je vous ai pas demandé de vous présenter.
Oui, il y a pas de souci. Donc moi c'est Léo Kreider.
Oui.
Je suis entrepreneur aussi. Je me suis associé avec Valentin depuis pas longtemps. Moi j'ai un petit parcours entrepreneurial un peu plus dense parce que j'ai une entreprise de conseil en stratégie digitale.
Oui.
Et là j'ai une entreprise de d'édition de logiciels. Voilà, donc j'édite un logiciel qui s'appelle Ulki, un logiciel de gestion de projet qui vise à diminuer la charge mentale des entrepreneurs, abondé à l'IA.
Merci. Voilà. Et donc il vous faut des investissements pour faire grandir votre entreprise.
Alors évidemment, comme toute jeune entreprise, je pense qu'on a besoin de financement, ça c'est nécessaire. Maintenant, la première étape, c'est vraiment de trouver un industriel qui est prêt à nous accompagner, au moins pour le développement de ce batardeau à relevage automatique, parce que tous les autres produits, en réalité, ils existent déjà. On a juste à leur apporter certaines modifications pour les digitaliser et les interconnecter. Mais ce batardeau, ça c'est vraiment une pièce industrielle. Alors, les matériaux composants sont des choses qui existent déjà. Il n'y a rien d'innovant réellement dans le composé du produit. Par contre, c'est vraiment l'assemblage où on a besoin de s'appuyer sur un industriel et de son expérience pour nous aider à développer au moins un prototype pour pouvoir les faire reconnaître notre solution. Et si ce prototype est efficace et reconnu, derrière, on pourra lancer une ligne de production à plus grande échelle.
Parce que l'idée, c'est de produire dans le territoire.
Bien sûr.
Il y a peut-être des solutions dans d'autres pays du monde où on peut produire plus rapidement.
Mais de rester local.
Mais l'idée, c'est de rester local, oui.
Là, vous êtes installé à Argenteuil, actuellement ?
Alors là, actuellement, on est installé à Paris 16e. Oui. On réfléchit à s'installer à Argenteuil pour diverses raisons, notamment parce que Léo connaît très bien le secteur.
Oui. En fait, j'ai travaillé à la Chambre de commerce pendant un moment, donc je connais très bien Boucle Nord de Seine. Je connais aussi l'attractivité du territoire et tous les accompagnements qui peuvent suivre avec.
Alors, on a posé une question au précédent chef d'entreprise qu'on a interviewé. Monsieur le ministre Sébastien Martin est là dans quelques minutes, hein, à Argenteuil. Si vous trouviez en tête-à-tête avec lui pendant quelques minutes, qu'est-ce que vous lui demanderiez ? Qu'est-ce que vous lui diriez ?
Je lui demanderais de libérer la parole publique au niveau des risques naturels, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est extrêmement sensible, où tout le monde se rejette la balle en réalité. Un coup, c'est la faute de l'État qui renvoie sur les collectivités renvoient sur les mairies qui ont voté les PLU. Mais si ça dépasse le niveau de la dernière crue centennale qui a été recensée, c'est plus la faute des mairies, c'est la faute du gouvernement qui doit reconnaître en CatNat. Et en réalité, on a différents niveaux, différentes strates administratives qui se renvoient en permanence la balle et qui font que la prise en charge réelle des sinistres, elle est très problématique. Elle est très longue. Et quand elle est là, elle n'est pas assez conséquente. J'ai eu le témoignage d'énormément de personnes qui ont été touchées. Tout le monde a perdu énormément d'argent dans les inondations. Oui, les gens assurés ne récupèrent.
Oui,
si déjà ils récupèrent 70% des dégâts, voilà. Ouais. Et c'est aussi logique parce que les assurances ne peuvent pas tout suivre non plus tant qu'il n'y a pas des décisions qui sont prises correctement. Donc il faut qu'il y ait vraiment un cadre juridique clair autour de la protection des risques naturels. Que ce soit les inondations, le risque sismique, le risque volcanique, tous ces risques-là, en réalité, c'est des choses qui sont un peu mis de côté en disant voilà, c'est les assurances qui remboursent, de toute manière c'est du privé, tant qu'elles viennent pas toquer à notre porte, c'est pas de notre faute. Sauf que là il y a plus de sous, les assurances, on le voit bien, le régime CatNat, il commence à retrouver un peu la lumière parce que les cotisations d'assurance ont explosé, donc oui effectivement il commence à retrouver la lumière, mais en réalité avec le réchauffement climatique il va y avoir de plus en plus de phénomènes intenses.
Absolument.
Et si les bâtiments sont pas équipés correctement, on va avoir des problèmes de plus en plus gros.
Des catastrophes,
voilà.
Et vous, si vous vous trouviez en face de Monsieur le ministre ?
Moi, c'est peut-être une question, enfin une réponse un peu plus globale. C'est surtout sur le sujet industriel. Est-ce qu'après 2027, ils iront encore aussi loin ? Est-ce qu'ils préparent le terrain ?
Oui.
Voilà. Parce qu'on approche des élections. On peut un peu s'attendre à un statu quo pendant quelques temps. Donc c'est vrai que nous, on est là, on est porteurs de projets, on a besoin de dynamisme, on a besoin de décisions aussi, malgré tout. Donc savoir comment ça va se passer, ouais. Cette transition.
En tout cas, merci d'être venu à notre micro.
Merci
et puis,
à vous.
On vous souhaite le meilleur pour la suite de votre
bientôt,
activité. À bientôt.
J'espère
oui. Merci.
Merci.
IDFM 98 FM.
IDFM Radio, nous sommes à Argenteuil dans les jardins de l'abbaye pour les immanquables, 5e édition. Et nous ne pouvions pas passer à côté de la présence du président de l'ADPAVAB, Jean-Luc Mabou. Bonjour Jean-Luc.
Bonsoir Jacqueline.
Vous avez été mis à l'honneur par M. Motron,
oui,
en tout cas l'ADPAVAB. Donc on voit tout de suite l'importance de cette association. Vous nous en dites quelques mots Jean-Luc ?
L'ADPAVAB a été créée il y a une vingtaine d'années maintenant, ici à Argenteuil. Elle regroupe à peu près 70 chefs d'entreprise dans tous les secteurs d'activité, de l'industrie aux services, des ETI à l'entrepreneur individuel. Et nous sommes très présents aux côtés de la mairie sur les sujets de développement économique. Nous sommes associés à tous les événements qu'ils organisent et à tous les événements que nous organisons. Nous faisons main dans la main avec la mairie.
Et alors, ce que j'ai bien aimé dans le discours du ministre, c'est qu'en fait, il a complètement repris votre concept, c'est-à-dire d'aller chercher le fournisseur à côté de chez soi plutôt que de travailler avec un fournisseur qui est à l'autre bout de la France.
C'est ça.
Ou pire, à l'autre bout du monde.
C'est l'importance des réseaux aujourd'hui, oui. Et du type d'association comme la nôtre, c'est effectivement de se voir. Parce qu'effectivement, même dans la même rue, on peut ne pas se voir comme industriel. On est pris dans son activité, on est pris avec ses sous-traitants, on est pris avec ses clients. Et on ne se voit pas. Et souvent, le sous-traitant, ça peut être le voisin. Ça peut être celui qui va apporter du service, qui va connecter avec d'autres personnes. Et l'importance des réseaux, et Dieu sait que le Val d'Oise est très riche dans ce domaine-là, c'est effectivement de permettre aux gens de se rencontrer, de dialoguer et éventuellement de faire du commerce.
Et vous-même, Jean-Luc, votre entreprise est basée à Argenteuil ?
Oui, moi je ne suis pas très loin d'ici, je suis à une centaine de mètres. C'est une société qui est là depuis plusieurs années, moi je suis là depuis 4 ans.
Donc voilà. Une ville qui, pour vous, a beaucoup d'atouts ?
C'est une ville qu'il faut apprendre à connaître. Au départ, on peut être un peu réticent à venir, mais en fait c'est une ville qui a plein d'atouts, avec une vraie volonté de développement économique, de mettre en avant les entreprises. C'est pas toujours le cas dans toutes les villes, et aujourd'hui peut-être encore moins, parce que on a aujourd'hui des villes où le chef d'entreprise est plutôt mal vu, malvenu en tout cas. Oui. Ici, il y a une vraie volonté. La semaine dernière, on a participé, l'Alpavab était d'ailleurs sponsor à Créer Argenteuil, qui est un concours de jeunes créateurs d'entreprises où tu étais, avec des très très beaux projets. Et ça, ça permet de mettre en avant des jeunes des quartiers, des jeunes d'Argenteuil, et après de les retrouver dans en tant que chef d'entreprise et à des soirées comme celle-ci.
Oui.
Donc ça, c'est un côté positif. Et quand on commence à travailler avec les jeunes, alors il y a effectivement le concours de créateurs d'entreprise. Là, on a parlé de la Fabrica aujourd'hui, qui est qui est une école de formation au métier des métaux. Oui. Ça, c'est des plus. C'est des domaines où on a des problèmes. La création d'entreprise, c'est important de les mettre en avant. C'est important dans la dynamique d'une ville d'avoir des nouveaux créateurs d'entreprise. Et là, c'est un plus. Comme tu as vu, il y avait quand même des projets qui étaient vraiment très, 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 de très, très haut niveau, potentiellement avec une vision internationale. Donc, c'est très bien. Et on a encore quelques gagnants qui étaient là, qui avaient gagné l'année dernière et qui étaient là ce soir. Voilà. Donc, il y a un lien entre tous ces gens, entre les chefs d'entreprise, les nouveaux chefs d'entreprise, les entreprises installées. Et effectivement, les réseaux, est fait pour connecter tout le monde. On a Laurie qui est la gagnante de l'année dernière, qui cherche à s'industrialiser. Aujourd'hui, on a des consultants dans le domaine industriel. Donc voilà, c'est des moments où ils se rencontrent et peut-être que ça va permettre de progresser et d'avancer dans son projet.
Merci infiniment Jean-Luc d'être venu témoigner à notre micro.
À très bientôt.
À très bientôt, merci.
Au revoir.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Encore un chef d'entreprise à notre micro, micro d'IDFM, toujours aux immanquables d'Argenteuil. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment vous appelez-vous et quelle est votre activité ?
Djemel Mebarki, donc l'un des responsables des cofondateurs de la société SD Expertise, spécialisée dans le diagnostic immobilier, avant-vente, location ou avant-travaux et démolition.
Vous êtes basé donc à Argenteuil ?
Oui, à Argenteuil depuis 2019.
Et vous avez l'habitude de venir à cette soirée des immanquables ?
On a la chance effectivement d'être invité par la mairie d'Argenteuil dans ce type d'événement qui nous permet de voir un peu de monde et sortir un peu de notre bulle.
Vous avez réussi à parler au ministre, monsieur Sébastien Martin ?
Pas encore, je vais le chercher et on va essayer de discuter de tout et de rien, mais surtout de l'entrepreneuriat.
Donc votre activité aujourd'hui, malgré le contexte économique, comment ça se passe chez vous ?
On garde le sourire, c'est difficile, on a des salariés derrière qui comptent sur nous, donc du coup on avance, on essaie de trouver d'autres solutions de développement pour chacun puisse travailler et être en sécurité, entre guillemets. Donc du coup on avance à notre niveau, on essaie d'explorer d'autres axes de développement qui nous permettent de nous mettre un peu en sécurité.
Vous êtes combien aujourd'hui dans votre entreprise ?
Aujourd'hui, on est 12 salariés.
Oui, donc ça fait une masse salariale déjà un petit peu conséquente, hein, forcément. Votre carnet de commandes, là, dans les mois à venir, c'est plutôt positif ou c'est compliqué ?
Malheureusement, dans notre métier, on n'a pas forcément de visibilité sur ce qu'on va avoir demain. On travaille à la semaine, par moment, au jour. Et donc, du coup, c'est ce qui est difficile dans notre métier de diagnostiqueur immobilier, c'est que avec 6 techniciens dehors, pour qu'ils puissent chacun avoir une mission, c'est compliqué. Vous en avez qui sortent, d'autres un peu moins. Donc, on essaie de compenser les agendas de chacun et d'aller chercher d'autres développements pour charger un peu ces agendas.
Oui, c'est ça. Vous avez décidé d'élargir le champ de vos activités. Vous pouvez nous en parler ?
Oui, totalement. On a ouvert un bureau de contrôle. On est en train de travailler sur la partie certification, COFRAC. C'est un gros sujet, un dossier assez lourd qui demande beaucoup de mobilisation et d'autres axes de développement comme d'autres départements qu'on n'explore pas encore. Et on se dit pourquoi pas aller chercher une opportunité là-bas.
Donc il y a du potentiel quand même.
Il y en a toujours, il faut juste savoir où aller les chercher.
Bon, je vous laisse aller voir le ministre et puis lui poser vos questions. À bientôt.
À bientôt, merci encore une fois.
Merci.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
Après
présent, je suis avec Madame Camille Jiquel, adjointe au maire, déléguée à l'urbanisme, à l'aménagement et aux projets urbains, élue conseillère métropolitaine au sein de la métropole du Grand Paris très récemment. Bonjour Camille.
Bonjour Jacqueline.
Alors Camille, les immanquables mettent en lumière le dynamisme économique et culturel d'Argenteuil. Quel regard portez-vous sur cette cinquième édition ?
On est extrêmement fiers. On est fiers de nos entreprises, on est fiers de notre tissu local, de notre dynamisme, de toute l'équipe, des agents évidemment, et puis fiers d'Argenteuil au sens large du terme. Ça prouve que ce qu'on fait porte ses fruits.
Vous avez aujourd'hui la présence du ministre délégué à l'industrie, Sébastien Martin. Un signal fort pour le territoire ?
Oui, c'est extrêmement important pour nous de faire connaître Argenteuil, de faire connaître la diversité économique, j'en parlais, mais aussi toute son histoire, sa richesse culturelle. Et donc, autant nous faisons énormément d'actions en faveur de nos habitants, évidemment, mais c'est aussi important de faire connaître tout cela à l'extérieur. Et donc, la venue d'un ministre, et a fortiori le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin, est extrêmement importante pour nous.
Monsieur Motron, dans son discours, a rappelé les atouts d'Argenteuil, de Boucle Nord, pour attirer et développer l'industrie, mais aussi il a fait une passerelle avec l'histoire d'Argenteuil, notamment avec les peintres célèbres, impressionnistes. Vous voulez en dire un mot ?
Oui, tout à fait. Étant également adjointe à l'urbanisme et à l'aménagement, la transformation du paysage par l'industrie m'a beaucoup touchée et me touche encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on travaille sur des projets de développement économique, des projets de logement, d'aménagement, on demande toujours aux architectes de se rattacher à l'histoire impressionniste de la ville, notamment, mais aussi l'histoire architecturale. Et donc aujourd'hui, ça donne des objets qui sont spécifiques à Argenteuil et qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et ça participe aussi à avoir cette reconnaissance et cette fierté pour la ville. Donc c'est très important. Et puis quand on parle du passé, de la richesse du passé, de l'histoire, c'est aussi important de se rappeler qu'à Argenteuil, on a eu les premiers hydravions Donnet-Lévesque qui ont volé, les premières automobiles qui ont été fabriquées en série avec Lorraine Dietrich, ou encore les établissements Joly qui ont fondé des pièces de la Tour Eiffel, de la gare Saint-Lazare ou des Halles Baltar. C'est important.
C'est vrai qu'Argenteuil apparaît vraiment comme un pôle industriel. Aujourd'hui, à l'heure de la souveraineté industrielle, c'est important. Comment maintenir le maintien justement d'activités industrielles avec la forte pression foncière en Île-de-France ?
Alors c'est un travail de longue haleine qu'on mène avec plusieurs partenaires. Déjà, d'un point de vue réglementaire, on a sanctuarisé avec l'aide de la région Île-de-France et de la métropole du Grand Paris, également du territoire, évidemment, au titre du plan local d'urbanisme, on a sanctuarisé les fonciers économiques. C'est important pour nous d'éviter ce qu'on appelle, entre guillemets, le mitage, donc c'est-à-dire d'avoir d'autres activités qui viennent un peu grignoter ces fonciers industriels. Et ça, on a réussi à le faire de manière réglementaire. Et ensuite, ça passe aussi par la refonte de la marque territoriale Boucle Nord de Seine, qui nous a permis d'être mieux connus des entreprises, leur permettre de réfléchir à des projets de pérennisation de leurs activités ou même de nouvelles implantations sur le territoire. Et donc, tout ce travail politique et cette impulsion que nous faisons, Georges Motron parle toujours de notre rôle de facilitateur, mais c'est aussi un rôle d'impulsion. C'est une énergie qui est énorme au quotidien et on voit que ça paye. Donc, c'est important. Et aujourd'hui, ce soir, avec toutes les entreprises et les partenaires qui sont réunis autour de l'immanquable de Georges Motron et évidemment de la venue de Monsieur le Ministre, ça prouve qu'on n'est pas seul et que c'est tout un écosystème qui porte le territoire.
Merci Camille Jiquel. Alors un mot aussi sur la transition écologique, parce que c'est un sujet important aujourd'hui. Les entreprises sont confrontées à de nouvelles exigences environnementales. Comment ces projets urbains économiques intègrent-ils cette transition à Argenteuil ?
Alors déjà, si on prend purement le prisme de l'aménagement, les zones d'activité économique, on en a à peu près 800 hectares à l'échelle du territoire boucle nord de Seine, donc 400 hectares du port de Gennevilliers. Mais à travers la reconversion des friches industrielles, c'est un des premiers vecteurs de désimperméabilisation des sols et de renaturation en ville, puisqu'on va mécaniquement, grâce au travail réglementaire qu'on a fait, allouer 30% d'espace de pleine terre aujourd'hui, y compris dans les projets économiques. Ça peut paraître un peu fort comme geste, mais néanmoins, ça participe aussi au bien-être des salariés, au bien-être des habitants et évidemment à la nature en ville. Et donc, c'est un des premiers vecteurs aujourd'hui de résorption d'îlots de chaleur, comme on appelle ça. Et avec la période qu'on vit actuellement, c'est éminemment important. On accompagne également toutes les entreprises à travers les clubs d'entreprise et les réseaux d'entrepreneurs comme le MEDEF par exemple ou la CPME à la transition écologique, notamment toute la partie rénovation énergétique, photovoltaïque, meilleure gestion de l'eau, etc. Et ça, c'est des cycles de webinaires. On aiguille, encore une fois, on a un rôle de facilitateur et on aiguille les entreprises vers ces aides ou alors ces dispositifs de différents acteurs partenaires. Au-delà de ça, on a un rôle majeur aujourd'hui à conserver notre tissu de TPE, PME et ETI sur le territoire et à ne pas laisser place à des projets parfois pharaoniques, et je pense en ce moment au data center. Dans la période dans laquelle on vit, évidemment, on a éminemment besoin de souveraineté numérique et de puissance de calcul. C'est devenu une ressource stratégique.
Incontournable
et stratégique. Néanmoins, l'impact sur nos territoires est énorme. Et d'ailleurs, on en a parlé avec Monsieur le Ministre, l'impact sur les fonciers est important et l'impact écologique ensuite est important. Donc, on en a, on travaille sur des projets, mais néanmoins, il faut aussi être bien attentif à l'impact, à la bonne implantation, à la bonne dimension et à la bonne intégration dans l'environnement.
Camille, une dernière question. Quel message souhaitez-vous adresser aux entrepreneurs qui hésiteraient encore à s'implanter à Argenteuil ou dans Boucle Nord de Seine ?
On est là. Je pense que le message est assez unanime. En tout cas, le retour, le feedback est assez unanime. Il y a une vraie présence des élus, des services sur l'ensemble des villes du territoire. Spécialement, on est ce soir à Argenteuil, donc évidemment à Argenteuil, mais on est là, on accompagne toute implantation ou projet d'entreprise sur le territoire. On les accompagne au titre de l'implantation purement foncière, de l'aménagement des voiries, de l'accompagnement à l'installation, de la formation et de l'emploi. On est vraiment très très présent à l'écoute des entreprises et on porte également des projets. Je pense notamment à l'école de production qui est là ce soir, la Factory Academy, donc qui est située à Argenteuil, au Val d'Argent, spécialisée dans les métiers de l'usinage pour l'industrie, et c'est véritablement un projet public-privé porté par les entreprises, évidemment soutenu par la ville d'Argenteuil et le territoire. Je pense à la région notamment. Et quand on voit le résultat, puisque vendredi dernier, j'ai passé l'après-midi avec les jeunes, là-bas, on a tout gagné. Franchement, il faut que ces projets prennent de l'ampleur et s'aiment. Donc on réfléchit à une seconde implantation sur le territoire. Et évidemment, quand on redonne du sens aux jeunes et qu'on offre la possibilité de trouver sa place dans la société, on a tout gagné.
C'est sûr qu'il faut faire confiance aux jeunes. Nous avons reçu chez IDFM Radio la Factory Academy, donc on la connaît un petit peu. Merci infiniment Camille Jiquel pour ces propos et bravo pour ce bel événement des Immanquables où vous avez beaucoup de monde, donc je pense que c'est d'emblée réussi.
Oui, c'est une réussite et encore une fois, hein, c'est une réussite d'équipe. Georges Motron nous imprime un rythme et une ambition qui est là, qui perdure, et toute l'équipe municipale qui est aussi présente ce soir. Ne me fera pas mentir, on est vraiment, quand on voit ce résultat et quand on voit une soirée comme l'Immanquable, on est vraiment, on sait pourquoi on se lève le matin.
Je comprends. À bientôt dans les locaux d'IDFM Radio. Merci. Ainsi s'achève notre retour sur cette 5e édition des Immanquables d'Argenteuil.
et un constat s'impose. Énergie, résilience, engagement et capacité d'innovation des entrepreneurs font vivre notre territoire et participent au rayonnement économique de la France. Au cours de cette soirée, nous avons surtout constaté que l'industrie française repose sur une qualité essentielle, le courage d'entreprendre, d'investir et de croire en l'avenir. Un grand merci à la ville d'Argenteuil pour sa confiance, ainsi qu'à l'ensemble des dirigeants qui ont accepté de partager leur expérience à notre micro. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur idfmradio.fr. Merci de votre fidélité et à très bientôt dans l'économie en direct.